Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers amis, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission de Thérapie Pop, l'émission qui explore avec vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Et comme à l'accoutumée, c'est de Gauthier que je serai accompagné pour la thérapie de cette semaine. Salut Gauthier.
Salut Théo, pour un album que tu connais, non, je crois.
Et justement, j'y viens Gauthier. Dans l'émission de ce jour, on va se plonger dans un disque qui me tient particulièrement à cœur. En effet, le morceau qui donne son titre à l'album est celui qui a accompagné notre entrée dans l'église le jour de notre mariage, diffusé justement par Gauthier qui m'accompagne ce soir à la radio. C'est également l'album favori de ma chère maman, qui est une de nos fidèles auditrices. Je fais donc d'une pierre deux coups, vous l'aurez noté. On est en 1972 et Neil Young vient de sortir son quatrième disque solo, probablement le plus emblématique, en tout cas le plus connu, c'est bien d'Harvest qu'il s'agit. Et pourtant c'est un travail qu'il reniera par moments, mais on va vous développer tout ça dans quelques instants, et je vais laisser la parole à Gauthier qui va commencer par nous resituer Harvest dans la discographie de Neil Young.
Un Gauthier pressé, mon cher Théo, parce qu'il y a beaucoup à dire. Effectivement, en 70-71, Neil Young sort de deux chefs-d'œuvre, After the Golden Rush, un album gigantesque, et Déjà Vu de Crosby, Stills, Nash & Young, album peut-être encore plus gigantesque.
Et oui.
Ce qui fait que ce cher Neil devient une superstar mondiale, ce qui vit très mal, comme notre cher D'Angelo le mois dernier. Il confiera par exemple au magazine Mojo, « Fame is the last thing I ever wanted. I felt like losing control on my own life. » Théo, ça veut dire que la fame, c'est, il n'avait jamais voulu ça. Il avait l'impression de perdre le contrôle sur sa propre existence.
Petit bonhomme que j'ai envie de serrer dans mes bras. Oui, parce qu'il faut rappeler que Neil Young a rejoint en 69 le trio formé par Crosby, Stills et Nash pour l'album Déjà Vu. Ce qui va donc, tu l'as dit, largement contribuer à sa notoriété. Et cette notoriété ne va pas le mettre en grande joie. Je reviens à l'album solo, donc Harvest. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu son enregistrement ?
Assez inhabituel, en fait. Il va enregistrer tout ça dans une grange dans le Tennessee, dans une salle de concert quasiment vide, et dans un studio à Nashville. Donc des salles, enfin des ambiances de travail extrêmement...
Complètement différentes.
Complètement différentes. Neil Young se déplace d'endroit en endroit avec son petit magnétophone et capture ses musiciens, parfois sans la moindre répétition. Pourquoi pas, j'ai envie
et
de te dire.
Et pourquoi pas. Mais dans le ranch qu'il a acheté, donc de plus de 60 hectares, on trouve quelques arbres et c'est en ramassant une branche de noyer que Neil Young se blesse gravement et ça va impacter grandement l'enregistrement de cet album, Gauthier.
Mais oui, Théo, parce qu'on oublie de parler des dangers des branches de noyer. Et en 71, il va se flinguer le dos, notre ami, il va rester incapable de tenir la position debout. Donc une grande partie de l'album va être enregistrée assis, voire carrément en position allongée, ce qui doit pas être...
Pas pratique.
Très simple, non.
Enfin, Michel-Ange a fait la Sixtine allongée, cela dit.
Mais il jouait pas de la guitare.
Non. Certes.
Et cette immobilité va alors pas gâcher son jeu de guitare, mais par contre va accentuer le côté introspectif de cet album. Théo, j'aurais bien une citation en anglais, mais passons. J'épargnerai les oreilles attentives.
Tu es sûr?
Oui. Bon. Tu sais la sorte?
Vas-y.
When your body slows down, your mind goes places it usually avoids.
Oh.
C'est beau.
Hein. Ça me touche profondément. Vraiment au plus profond de mon âme,
je
Gauthier.
Je comprends.
Peut-être réduit par son immobilité, Neil Young va s'entourer de musiciens, mais d'un genre un petit peu particulier, la country. Et ça va influencer la composition d'Harvest.
Oui, c'est très très important pour la composition de cet album et pour l'héritage de cet album. On retrouve Ben Keith, Benny Buttry et les Strigators. Alors vous savez pas qui c'est pas très grave. Il y en a qui formeront le groupe de Neil Young, les Wild Horses, sauf erreur de ma part. C'est tous des musiciens de country et ils vont arriver à créer ce mélange entre justement la country sudiste, qui n'est pas peut-être le travail premier de Neil Young, qui rappelons-le,
non, c'est pas son fond de commerce,
est canadien. Lui va se charger d'apporter sa folk californienne pour un canadien, mais enfin bon, on en reparlera un autre jour peut-être. Et c'est ce brassage de ces deux styles musicaux qui ne se connaissaient peut-être pas forcément qui va créer le son unique qui est celui d'Harvest.
Et comme souvent chez Neil Young, l'écriture est importante et les paroles, pour le coup, ne transpirent pas la joie. Harvest ne déroge pas à la règle, Gauthier.
Non, il y a le magnifique The Needle and the Damage Done qui évoque les ravages de l'héroïne sur ses potes. Old Man, là aussi, tout est dans le titre. C'est né d'une conversation avec le gardien d'un ranch. Vous pouvez aller lire les paroles. Bon, c'est pas. Le gardien du ranch ne raconte pas les meilleurs moments de sa vie. Enfin, tout du moins, il rappelle qu'il est vieux, quoi. Bon, voilà. C'est introspectif. Mais bon, de toute façon, Neil y est allongé. Il a mal au dos. Alors. C'est sûr que c'est pas évident.
Est-ce que tu nous as prévu un petit interlude?
Ben, je me suis dit que Heart of Gold.
Et pourquoi pas?
Pourquoi pas, hein? Allez, c'est parti, mon cher Théo.
On va s'attaquer à ta partie préférée, Gauthier, la partie un peu technique. Qu'est-ce qu'on trouve comme instrument sur ce disque?
Plein de trucs, mon cher Théo. On pourrait penser que c'est de la folk simple, mais que nenni! Il y a de l'acoustique, il y a des chœurs de femmes, de l'harmonica.
Et on l'entend.
Oui, bien sûr, des thèmes presque pastoraux. Et puis, plein de choses tristes comme l'angoisse, la mort, la dépendance, le doute existentiel. Bon, enfin voilà, quoi.
Donc ça, c'est pour les thèmes qu'il aborde dans cet album.
Il y a beaucoup d'instruments et beaucoup de thèmes. Théo, beaucoup de choses dans cet album.
Je vois ça. Et il y a quelque chose qu'il faut remarquer également, Gauthier, c'est la voix de Neil Young. Elle n'est pas sans faille et il va en faire une force, lui.
Il a toujours eu cette particularité, cette signature vocale très nasillarde, qui n'a jamais été, on pourrait qualifier, de propre, de tripure. Et il a toujours voulu jouer avec ça. On entend parfois quasiment des ratés.
Ça marchait pour Bob Dylan hein, aussi. Hein.
Ouais, je trouve que Neil Young chante presque encore moins bien, pour ainsi dire. Parce que,
Tout est.
Voilà.
Tu vas loin.
Ouais. Mais les fêlures, les respirations, presque. Les fausses notes sont maintenues parce que, en fait, elles disent quelque chose. Et c'est peut-être pas plus mal d'avoir ce chant presque imparfait parce qu'il dit bien plus de choses. On sait que tout le rock des années 90 américain, Pavement, etc., jouera beaucoup justement sur conserver parfois ce qui peut sembler, pour toi, mon cher Théo, en tout cas des fausses notes absolument inaudibles et qui sont pour moi du miel
de
à mes oreilles.
Bien sûr. Et donc, comme on pouvait s'y attendre et comme on le disait dans l'introduction de l'émission, Cet album, c'est un carton absolu dès sa sortie, Gauthier.
Oui, c'est l'album le plus vendu de l'année 72 aux États-Unis. Donc oui, effectivement, c'est énorme. Et ça sera très mal vécu, on l'a dit, par Neil Young, parce qu'il sentira un fossé se creuser avec ses fans, puisqu'il deviendra une star et il n'aime pas ça. Mais aussi parce qu'il verra ça comme une trahison de ses propres instincts. C'est-à-dire que lui pensait faire un truc, ben, justement, introspectif, un peu calme. Et bien, que nini, il vient de faire un carton national. Et c'est pas trop ce qu'il avait prévu.
Fallait pas le diffuser. Et vu qu'il est un petit peu fâché avec le succès, du moins la notoriété, il va pondre 3 albums en suivant, mais beaucoup plus sombres qu'Harvest, ce qui est quand même un tour de force, soit dit en passant.
Et manque de bol, qui seront tout aussi brillants que lui, si c'est presque mieux. C'est Times Fade Away, Tonight's Night, qui est peut-être le plus plombé, et On the Beach, ce qui fait que notre cher Neil, quand il essaie presque de s'écarter de son public, ne fait que se rapprocher de lui, parce que tout ce qu'il fait est absolument brillant. À l'époque, là, les 5-6 premiers albums, c'est du délire. Hein. Le tout premier qui est pas ouf, mais après c'est... Il n'y a pas une chanson à acheter presque.
Et les 3 albums qui suivent Harvest, il les surnomme la Ditch Trilogy.
Pour le fossé qui se creuse entre lui et le public.
C'est ça. Et si Harvest est certes plus lumineux que ces 3 albums, et qui n'est quand même pas très gay, il y a quand même quelques raisons à cela, Gauthier.
Alors, je vous avais parlé du Crazy Horse, qui était pas un groupe de stripteaseuses, mais le groupe qui le suivait.
Ou un grand chef indien.
Le groupe qui le suivait pour ses lives, et ben, Danny Whiten, un des membres du Crazy Horse, va mourir au moment où Neil Young sort The Needle and the Damage Done, c'est-à-dire une chanson sur les ravages de l'héroïne, ce qui criera. Dis donc, le pauvre Neil, il va pas s'en sortir. Une culpabilité en plus de tout le reste. Il dira « I wrote about death and then I came from real ». En gros, j'ai écrit sur la mort et puis elle est devenue réelle. Quoi.
Et comme tout album qui cartonne, Harvest et Neil Young plus largement fera des émules et pas des moindres.
Oui, tout Pitchfork dira que tous les songwriters qui chuchotent, en fait, qui ont une espèce de patte un peu intimiste, viennent de Harvest. On peut penser à Bon Iver, Phoebe Bridges chez les femmes, Elliot Smith, Fleet Foxes, etc. Bon, Fleet Foxes, c'est un peu plus hasardeux, à mon avis, mais il s'en réclame.
La comparaison est douteuse.
Alors, il s'en réclame, et à juste titre, parce que sur Harvest, il y a parfois des parties très instrumentales.
Ouais, même.
Donc, et Fleet Foxes est plus instrumental que Elliot Smith, ça c'est sûr.
Et on va conclure, mon cher Gauthier, si tu retrouves ta voix, par le paradoxe qu'est Harvest dans la discographie, voire dans la vie de Neil Young.
Oui, je terminerai avec une citation, mon cher Théo. Effectivement, lui devient à ce moment-là une icône planétaire à son grand âme, hein, puisqu'il ne veut absolument pas l'être. Et il le résumera lui-même plus tard avec cette phrase, Théo, que tu voulais que je te cite.
Oui.
Donc, je te l'ai dit, Harvest was the beginning of learning how to disappear. Harvest, c'était le début de l'apprentissage pour apprendre, entre guillemets, de l'apprentissage à comment disparaître.
Ouais. Ce qui fait écho d'ailleurs à un morceau de Radiohead, How to Disappear Completely.
Absolument.
Ouais.
Il a réussi à nous le placer.
Et oui, et la semaine prochaine, incroyable. Nous parlerons d'Arcade Fire. L'émission touche à sa fin, chers auditeurs.
Sur Herman Dude, moi, c'est ça.
Vous l'aurez compris, nous vous invitons vivement à vous replonger dans cet album de Neil Young, empreint d'une douce poésie et aux accents quelquefois un peu ténébreux. Sachez que nous aurons le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle thérapie consacrée cette fois à de quoi on parlera, Gauthier?
De Daft Punk.
Allez, de Discovery, le deuxième album de Daft Punk.
Parce que je me suis dit que Daft Punk, c'était la chose la plus logique après Neil Young.
Bien sûr. Et sans transition,
Je vous ferai une émission entière sur les liens entre Neil Young et Daft Punk.
Avec joie.
Ce qui durera 30 secondes l'émission.
Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute sur le site de Radio Présence et des radios partenaires, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier.
Mais salut, mon cher
Théo.